Vous écoutez le journal Digi, chapitre 77. Passer de cavalier à propriétaire en 2024. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions. Et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches, pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ce podcast et que je vous donne du coup rendez-vous depuis plus d'un an, tous les mercredis, pour vous partager des connaissances, mais aussi de la prise de recul en tant que cavalier cherchant à devenir propriétaire. Vous trouverez donc dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées, mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action et de construire votre relation rêvée. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Ça fait bien longtemps que j'avais envie de papoter, juste toi et moi, pour parler de ce sujet, de passer de cavalier à propriétaire. Parce que, à force de voir plein de contenus en ce moment sur les réseaux sociaux qui ont tendance à me crisper, j'avais envie de faire le tour de la question. Donc si le cœur t'en dit, je t'emmène avec moi, à mon avis, pour une vingtaine de minutes, dans un épisode un peu mindset, pour prendre du recul sur qu'est-ce que ça veut dire finalement d'être propriétaire d'un cheval en 2024. Alors j'ai fait très court sur l'intro et je vais rentrer dans le cœur du sujet dès le démarrage. Je vais pas tortiller, je vais pas passer par mille chemins, mais aujourd'hui, devenir propriétaire d'un cheval ou d'un équidé, d'une manière générale, c'est quand même embrasser une certaine dose de complexité. Déjà, j'ai fait plusieurs épisodes sur le sujet et je pense que mon compte sur Instagram et le contenu de ce podcast sont vraiment là pour te démontrer que transitionner de cavalier à propriétaire, c'est vraiment changer de monde, changer d'univers. C'est comme si tu rentrais dans une dimension parallèle. Tu as cru pendant des années que tu savais ce que c'était un cheval, ce que c'était de s'occuper d'un cheval, d'être avec lui, de faire des activités. Et là, tu te retrouves plongé finalement dans cet univers donc parallèle où tes bases, tes repères sont un peu roulés en boule dans un coin et où il faut, c'est pas recommencer à zéro, mais il faut en tout cas, c'est un peu comme une sorte de course en avant, de course-poursuite, un peu de sprint pour récupérer toutes les données, toutes les connaissances que tu n'as pas, dont tu ne pouvais pas te douter et qui sont en plus particulières, singulières à ton cheval. Et j'emploie souvent ce mot transition parce que je vois pas quel mot définit mieux cette étape, ce passage un peu obligatoire qu'on a tous quand on devient propriétaire et qui montre bien justement qu'il y a une sorte d'avant-après. Et si je dis qu'aujourd'hui c'est embrasser une bonne dose de complexité, c'est parce qu'en 2024, on est dans un contexte équin, où je devrais dire même l'équitation est dans un certain contexte un peu conflictuel, où il y a différentes philosophies, différentes visions du monde, différentes valeurs qui rentrent en confrontation et qui rendent ce moment, en tout cas cette période, hyper tendue, hyper intimidante, je trouve, pour les cavaliers qui souhaitent devenir propriétaires. Enfin, déjà, moi, juste en tant que jeune propriétaire, ça va faire 3 ans que j'ai Iggy et je me considère encore comme une jeune propriétaire, je ressens cette tension, cette traction sur les différentes visions du monde du cheval, de la vie aux côtés des chevaux, où il faut se positionner, où il faut avoir un avis, où il faut faire des choix. Et je me dis, quand on n'est pas confronté au quotidien des chevaux, parce que on n'en a pas l'occasion, quand on est cavalier, il y a quand même toute une partie de ce jour le jour que l'on ne voit pas, ça doit être sacrément complexe de démarrer dans ces conditions-là. En fait, je dis que c'est complexe et en même temps, je sais pas, parce que j'ai l'impression, comme je disais, qu'il y a un avant-après qui fait que quand on est simple cavalier de centre équestre, et du coup, si vous écoutez ce podcast, s'il vous plaît, dites-moi, faites-moi un DM sur Insta, faites-vous connaître pour me montrer peut-être que j'ai tort et que justement, tout ce contenu, toute cette information permanente arrive aux oreilles des personnes, sensibilise les futurs propriétaires de demain. Mais j'ai l'impression que quand on est encore en centre équestre ou en poney club, on n'est pas toujours sensibilisé et que les contenus que l'on voit, c'est pas forcément cela. On n'a pas encore suffisamment accès à ces connaissances, à ces remises en question. Et en fait, on voit ça un peu de loin, ou en tout cas, on n'arrive pas encore sur les bons médias. Et que c'est vraiment au moment, justement, où on transitionne, où on devient propriétaire et qu'on cherche plein d'informations pour gérer au mieux, tout simplement, ce passage, ce changement de paradigme, que là, on se prend la déferlante d'infos, de contenus, de connaissances qui peuvent avoir un effet de masse et qui sonnent parfois comme des injonctions à devoir faire comme ci ou comme ça de manière catégorique. Et c'est là où il peut y avoir cette déconnexion en se disant « Waouh, en fait, j'y suis pas du tout, je me trompe. » Et qui peuvent vraiment nous amener à une sorte de perte de confiance et de perte de repères. Et c'est dans ce contexte que ça peut être super facile de se dire comment moi je vais faire pour répondre à toutes ces nouvelles injonctions qu'on me donne en tant que futur propriétaire ou jeune propriétaire d'un cheval. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis, je sais pas si je suis la seule à le ressentir. Enfin, je suis pas sûre d'être la seule à le ressentir parce que des fois, quand j'en parle un peu sur les réseaux sociaux, je vois bien que ça fait réagir. Il y a ma boîte de DM qui explose en général pour me dire « Oui, moi aussi je le ressens, j'ai peur de montrer ce que je fais, j'ai peur de dire que je sais pas, etc. etc. » Finalement, ce contexte, c'est celui dans lequel on évolue quand on se lance, donc quand on est déjà, entre guillemets, devenu jeune propriétaire. Mais je me pose la question de « Est-ce qu'on le ressent du coup quand on est encore de l'autre côté de la barrière ?» Et puis 2024, c'est une année particulière. Il va y avoir les JO. L'équitation va être clairement sous les feux des projecteurs et ça a déjà commencé. On ne compte pas le nombre de contenus sur les réseaux sociaux qui dénoncent les pratiques maltraitantes. Et puis le grand public est en train de s'en emparer. Il y a eu un reportage sur France 2 il y a quelques semaines. Et les premières réactions, en fait, sont pas forcément bonnes. Ni auprès du grand public, ni auprès de notre grande famille équestre, où ceux qui prennent la parole sont tout de suite sur la défensive et ne cherchent pas à comprendre ce qui peut être reproché. Finalement, tout ce que ça démontre, c'est le manque de dialogue qu'il y a aujourd'hui au sein des pratiquants. Et c'est forcément pas ce qui diffuse une image rassurante pour les personnes qui sont extérieures à notre milieu. C'est déjà donc intimidant pour les simples cavaliers qui souhaitent devenir propriétaires de se prendre cette déferlante, mais alors imaginez ceux pour qui l'équitation, c'est juste un sport, pas du tout une passion, et qui vont donc se faire un avis et juger notre sport sur l'image que l'on renvoie justement de cette pratique, de cette discipline et de ce désalignement de vision quant à la collaboration entre l'homme et le cheval, à la relation entre l'homme et le cheval, et à notre discipline, ce que l'on peut en faire, et quel est l'intérêt pour le cheval de se retrouver au milieu de tout ça. Et je suis pas sûre que ça va s'arranger dans les mois qui arrivent, avec une fois de plus les JO, qui sont l'événement sportif qui regroupe toutes ces grandes pratiques les plus accueillies par le public, et dans lequel l'équitation a encore une part de visibilité, mais qui est probablement un des sports le plus attendu au tournant, étant donné que la cause animale et la cause du bien-être même animal et de la bientraitance est aujourd'hui au cœur des débats dans le grand public. Maintenant que j'ai planté un peu le décor, qui n'est certes pas très rassurant, désolé, j'aimerais te parler de mon déclic que moi j'ai eu. Désolé, ça va être le me time, mais ce déclic, je l'ai eu il y a 5 ans maintenant, 5-6 ans. Et je voulais t'en parler parce que je pense qu'il y a déjà 5-6 ans, cette naissance de malaise était présente, était palpable, et pour autant, j'ai réussi à la surmonter. Déjà, si tu n'as pas écouté toute mon histoire, et je t'en veux pas, mais que t'arrives sur cet épisode au moment où il sort, sans avoir écouté les précédents, il faut que tu saches que j'ai été cavalière longtemps, quand j'étais enfant, et ça remonte à il y a quelques dizaines d'années. Ce qui fait que j'ai eu, comme beaucoup de cavaliers et de cavalières, un démarrage en centre équestre. Et puis, à la fin de l'adolescence, avec le début des études, j'ai commencé à montrer un désintérêt pour l'équitation parce qu'il y avait plein de choses, en fait, dans ce milieu de centre équestre qui ne me correspondaient plus et qui me laissaient un peu un goût amer quant à la relation que j'avais avec les chevaux et à ma pratique même de l'équitation. Après une grande pause, j'ai décidé de revenir. J'ai décidé de faire mon comeback, pardon, je m'enflamme. J'ai décidé, en fait, de me remettre à l'équitation. Au même moment, en fait, j'ai découvert c'est-à-dire au même moment où je me suis inscrite en centre équestre, j'ai commencé à découvrir le horsemanship. Ça a été une révélation pour moi. Alors je vais pas faire un épisode sur le horsemanship, même si d'ailleurs j'en ai jamais vraiment fait, et peut-être que je pourrais en faire un. Bonne idée. Bref, ce n'est pas le but de ce chapitre de faire un épisode justement sur le horsemanship, mais je voulais te montrer que mon déclic a eu lieu parce que j'ai embrassé une certaine philosophie, une certaine vision du monde du cheval qui correspond à mes valeurs à moi. Et peut-être que pour toi, le horsemanship, c'est pas forcément ta vision, ta philosophie, et peut-être que tu en as une autre, mais c'est ça qui est important. C'est de savoir autour de quelle philosophie tu as envie de te rattacher. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Quel est le moteur derrière dans la relation que tu vas avoir avec le cheval? Et quelles sont les connaissances dont tu vas avoir besoin pour pouvoir faire vivre cette philosophie dans ta future relation avec ton futur cheval? Parce que c'est ça devenir propriétaire. C'est créer une histoire entre toi et un futur cheval. Il faut qu'il y ait un fil rouge, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous lie avant même que vous vous soyez trouvé. Réfléchir à la vision que l'on veut avoir du monde du cheval, celle qui nous donne envie de se lever le matin, qui nous donne envie d'aller affronter la pluie, le froid, le mauvais temps, les moustiques l'été, pour prendre soin de l'autre, pour prendre soin de notre animal, c'est plus que juste ça. Quel est le moteur? Quelle est la pratique? Quels en sont les codes qui chaque jour te drive, qui te donne envie de continuer à écrire ta future histoire, ton histoire avec ton cheval, et qui continue intrinsèquement de te faire grandir. Ensuite, il y a autre chose dont j'aimerais parler, c'est le rapport, le ratio entre théorie et pratique. Parce que si je reviens à mon intro et à ce que j'ai dit en premier lieu, c'est-à-dire le contexte équin dans lequel on se retrouve assez conflictuel, avec cette surenchère d'informations, de contenus, de connaissances, d'études scientifiques, etc., etc., tu vas être abreuvé de théorie, beaucoup. Et attention, la théorie, c'est super. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de théorie, mais il peut pas y avoir juste de la théorie sans jamais la mettre en pratique. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas juste devenir en théorie humain de cheval. Il y a un moment donné, il va falloir passer à la pratique si tu veux appliquer ce que t'as appris et si tu veux pouvoir l'incarner et le faire tien. Et la théorie, ça peut devenir ultra intimidant là aussi. Parce que plus tu lis, plus tu apprends, plus tu prends conscience, tu augmentes en fait ton champ, ta vision de connaissances, et du coup, tu peux te mettre à douter de ta pratique, de tes pratiques ou de tes manières de faire. Et cette remise en question, ce stretch mental, il peut être parfois difficile à vivre au quotidien ou à accepter. Il faut savoir qu'il va durer qu'un temps, justement, si tu accepte que tu vas devoir mettre en pratique. Et si je te parle de ça, c'est que je reçois de plus en plus de messages aujourd'hui sur Instagram de gens qui me disent « J'ose pas me lancer » ou « C'est pas le bon moment, il me manque tellement de connaissances, je suis pas au point, je dois encore tellement apprendre, etc. etc. » Et il y a un côté de moi qui trouve ça super parce que je me dis « Ok, il y a cette prise de conscience qu'il va falloir améliorer justement ses connaissances. » Il y a ce fameux « je suis dans l'avant », il y a le « après », je suis encore que simple cavalier et je me rends bien compte que devenir propriétaire, ça va être une autre dimension. Mais tu peux pas, en fait, tu peux pas passer directement au stade de super propriétaire sans pratiquer. Tu peux pas juste lire des livres et avoir l'impression que tu auras à un moment donné un niveau suffisant pour franchir le cap. Parce que honnêtement, plus tu lis, plus tu peux douter, plus tu peux remettre en question ce que tu sais ou ce que tu ne sais pas, et plus finalement la marche devient haute pour basculer à un moment donné sur la pratique. Mais surtout, finalement, il y a parfois la théorie parfaite avec un contexte parfait, mais dans la pratique, ce que toi tu vas rencontrer, ce que tu vas vivre, ça ne frôlera jamais ou ça n'approchera jamais ce contexte idéal que tu as pu étudier dans ta théorie. Et il faut accepter de se détacher de cette théorie pour faire avec ce que tu as à un moment donné et t'autoriser à te tromper, t'autoriser à te dire que tu n'auras pas que des contextes et des environnements idéaux pour toi et ton futur cheval. Et que c'est pas grave, la théorie c'est des bases auxquelles tu vas pouvoir toujours revenir pour trouver des solutions et du coup réussir à passer une certaine situation ou à améliorer une certaine situation. Je vais donner un petit exemple pour que ce soit un peu plus concret. Tu peux démarrer ton projet en te disant « Ok, il faut que je comprenne c'est quoi les besoins fondamentaux du cheval. » Et donc tu vas apprendre que le cheval a besoin de fourrage en continu, qu'il a besoin de mouvement, qu'il a besoin de copains. Et puis après, tu vas continuer ta découverte probablement avec les différents modes d'apprentissage du cheval. Et c'est le moment où tu découvres c'est quoi le cadran et du coup les techniques P+, P-, R+, R-. Et puis tu vas passer encore à un autre step et tu vas peut-être découvrir ce que c'est le force free training, etc., etc. Bref, ce que je veux te montrer dans cet exemple, c'est que si tu démarres ton apprentissage à travers les réseaux sociaux, toutes ces connaissances que je viens de te résumer très 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 rapidement, tu peux les lire en théorie. Mais il y a un moment donné, il va te falloir les pratiquer pour les comprendre, pour vraiment en embrasser en fait ce qu'elles représentent et les tester. Et peut-être que malheureusement, là, toi où tu es, dans ta situation géographique, il n'y a pas la pension parfaite où tu peux avoir un 3F parfait. Ou peut-être que tu vas trouver un cheval pour qui vivre en fait dehors toute l'année, c'est compliqué. Tu ne le sais pas encore, mais peut-être que ce cheval, passer l'hiver entier dehors sous la pluie, c'est pas une question d'être rustique ou pas rustique, mais ce sera pas confortable pour lui, pour X ou Y raison, et que tu vas devoir faire des compromis, parce que c'est son bien-être, de manière très pratico-pratique, qui va s'imposer à toi, devant même l'idée de la bien-traitance que tu t'étais fait en théorie. Oui, je sais, c'est pas facile ce que je viens de dire, je me suis un peu emballée, mais je pense que tu auras compris. Il y a ce qu'on croit très fort en théorie et ce qui est parfois démenti dans la pratique. Alors voilà, passer de cavalier à propriétaire en 2024, c'est embrasser toute cette complexité. Et puis pour toi qui m'écoutes, j'ai remarqué qu'il y a souvent deux catégories de personnes. Et je ne sais pas à laquelle tu appartiens. J'ai quand même remarqué que d'une manière générale, il y a les fonceurs et il y a les réfléchis. Parfois, moi, je fais partie des fonceurs. Il y a beaucoup de sujets dans ma vie perso où je me pose pas autant de questions et où juste je fonce. Parce que j'ai moins d'appréhension pour X ou Y raison. Et je sais que c'est en faisant que je vais apprendre. Et du coup, je m'autorise dès le départ, en fait, à pas trop anticiper, pas trop planifier, à me laisser un peu porter et à voir comment ça va se passer et qu'est-ce que je vais en retenir pour pouvoir m'améliorer, apprendre, progresser, etc., etc. Et puis, il y a d'autres sujets où je suis beaucoup plus réfléchie. Et typiquement, quand j'ai acheté ma jument, je me suis mis à fond dans l'organisation, la planification. J'ai mis du temps, en fait, à m'autoriser, à passer à l'action. J'ai passé 3-4 années à me former ou en tout cas à découvrir cette philosophie du horsemanship dont je te parlais pour renforcer mes croyances dans cette philosophie, dans cette vision et me dire que j'allais avoir le moteur, le fil rouge et les armes pour pouvoir devenir une propriétaire épanouie. Alors, quand je dis que j'ai mis 3-4 ans, j'y ai pas passé tous les jours, toutes mes nuits, etc. Mais je me suis autorisée à faire plusieurs stages, à aller rencontrer différentes personnes en clinique, etc. pour me faire un avis, une opinion en dehors de ma pratique de centre équestre. Par contre, quand j'ai pris la décision, là je me suis mis en mode plan d'action. Si je te parle de tout ça, c'est parce que on est au mois d'avril et j'ai décidé d'ouvrir la nouvelle promo de mon programme Devenir propriétaire. Clairement, si tu fais partie des fonceurs, ce programme c'est pas pour toi. Enfin, c'est pas que c'est pas pour toi, mais je suis pas sûre que t'en aies besoin. Parce que t'as suffisamment confiance en toi pour te dire que tu vas assumer finalement tes choix. Et peut-être que ce qui te manque juste, c'est les quelques outils pour venir au quotidien renforcer tes prises de décision. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a 2 ans, j'ai proposé un e-book qui s'appelait « Trouver le cheval de votre vie ». Et les gens qui téléchargeaient l'e-book, en général, derrière, ils m'envoyaient des messages en me disant « Bah, c'est super ». J'étais déjà bien avancée dans mon parcours et ça m'a donné le petit coup de pouce supplémentaire en fait pour faire avancer les choses et trouver le cheval de ma vie. Cet e-book en fait, j'ai décidé de le revoir, là j'ai fait peau neuve et je l'ai même transformé en workbook avec quelques petits exercices concrets à faire tout seul en autonomie pour justement passer en revue tout ce qu'on doit avoir en tête pour se lancer et 5 fiches, 5 checklists pour les 5 grandes étapes qui sont importantes en fait dans l'achat du cheval. Que ce soit la réflexion du projet, la conception du budget, la préparation, l'anticipation en fait de ces essais et puis le concret du concret, c'est-à-dire c'est quoi les nouveaux modes d'hébergement, comment on cherche sa pension, à quoi il faut penser et comment on se prépare pour le jour J. Donc ce workbook, il est remis à neuf et il est disponible dès aujourd'hui. Et si tu fais partie vraiment des fonceurs, je te propose de te rendre sur mon site internet et de voir si ce workbook peut t'aider et peut t'intéresser. Tu as déjà, entre guillemets, toutes les clés en toi et t'as juste besoin de la petite touche finale pour te donner le dernier élan, on va dire, avant de passer à l'action. Par contre, donc, si tu fais partie de la deuxième catégorie, des gens qui sont réfléchis, des gens qui aiment se préparer, des gens qui ont besoin d'avoir suffisamment de théorie avant de se lancer dans la pratique, le programme, il va revenir d'ici la fin du mois. Je l'ai un peu revu et surtout, je vais préparer un webinaire dans les prochaines semaines sur les 5 tabous dont on ne parle jamais, ceux qui sont complètement secrets, dans l'achat-revente d'un cheval. Et je t'invite à t'inscrire à ce webinaire si tu as besoin de continuer à mûrir et à réfléchir ce projet d'achat. En plus, t'as rien à perdre parce que le webinaire est complètement gratuit. Donc là également, je t'ai mis en description de l'épisode la page pour pouvoir s'inscrire au webinaire et la page pour pouvoir s'inscrire à la liste d'attente du programme si tu souhaites découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et surtout commencer à faire mûrir la réflexion ou pas de passer à l'action pour devenir propriétaire de ton cheval en 2024. Si tu es déjà propriétaire et que tu as quand même écouté cet épisode en entier, j'aimerais savoir si tu partages la même vision que moi ou pas. Donc franchement, ma boîte ADM est grande ouverte et j'aimerais bien avoir ton opinion là-dessus. Et si tu n'es pas encore propriétaire, que tu es cavalier, mais que tu penses pas du tout à devenir propriétaire un jour, j'aimerais bien savoir ce que t'en as pensé aussi, d'ailleurs. En fait, j'ai bien envie de savoir ton opinion, tout simplement. J'avais dit que je te tenais la jambe pendant à peu près 20 minutes, et c'est chose faite, donc je te remercie en tout cas pour ton écoute. Sache que tu peux aussi me laisser un commentaire directement depuis ta plateforme d'écoute. Ça me fait toujours hyper plaisir, ça aide aussi le podcast à se faire connaître. C'est ce qui permet aux algorithmes de le pousser en fait à d'autres cavaliers ou propriétaires comme toi qui se posent des questions dans leur quotidien et dans leur transition. Et puis je voulais aussi terminer cet épisode en te rappelant que le journal d'Iggy, c'est également une newsletter mensuelle où je te partage plus de curation de contenu, plus de tips pour pouvoir gérer ce fameux quotidien. Enfin, si t'as envie un peu de voir les dessous du podcast et d'apprendre à mieux me connaître, moi, mais aussi Iggy, ma jument, tu peux nous rejoindre sur Instagram ou TikTok @iggy.journal. Merci beaucoup de ton écoute et à très vite.